À une époque où règne la confusion.
De l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est dans Les Buissonnières, l'émission mensuelle de la Maison de l'écriture de Bédarieux. Pour cette première émission des Buissonnières de l'année 2024, j'ai invité deux participantes de l'atelier d'écriture régulier du jeudi soir à la Maison de l'écriture. Deux participantes qui n'ont pas exactement la même histoire par rapport à l'écriture et qui vont vous raconter comment ça se passe pour elles. Caroline, toi, comment es-tu arrivée à l'atelier d'écriture ?
Eh bien, à la lecture de cette annonce de Maison d'écriture.
Et toi, Laurence, tu as une expérience un peu différente parce que tu écrivais avant, je crois.
Et en fait, j'ai découvert pour la première fois les ateliers d'écriture il y a un an et demi, quand je suis venue ici en stage à la Maison de l'écriture. Et c'était un stage d'une semaine. Et en fait, j'avais trouvé ça formidable, mais quand je suis sortie du stage, j'étais dans un état d'épuisement absolument épouvantable. Donc je me suis dit, ça, il ne faut plus faire comme ça. Et je me disais, ça serait bien s'il y avait des ateliers hebdomadaires. Et puis, j'ai laissé le temps faire, parce que la vie fait bien les choses. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu moi aussi la petite annonce, atelier d'écriture hebdomadaire à la Maison de l'écriture. Et je me suis dit tout de suite, j'y vais, parce que j'avais beaucoup apprécié Virginie, et je savais que je pouvais y aller en confiance. Voilà, donc je suis arrivée au mois de septembre, un peu sur la pointe des pieds parce que c'est très compliqué les groupes pour moi. Et en fait là, je me suis sentie très vite en confiance, en harmonie avec le groupe. On peut lire nos textes, comme dit Caroline, je crois que c'est, on est dans un bain d'amour et donc on peut se lâcher complètement.
Et est-ce que tu attends quelque chose de particulier ? Donc, puisque tu es venue à un stage, c'est que tu as déjà une petite idée de l'écriture qui tricote dans ta tête. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier ? Est-ce que tu sais ce que tu attends ? Est-ce que tu as une envie ? Je te pose la question à toi et puis après, Caroline reprendra la suite.
Oui, je pense que j'ai un grand désir d'écriture. J'avais déjà écrit en 2007, un petit récit poétique. L'écriture s'était en fait jetée sur moi. En fait, d'un seul coup, je me suis mise à écrire pendant 3 semaines, nuit et jour, j'arrêtais pas d'écrire. Et donc, il y a un désir d'écriture, mais qui a un peu fait flop parce que j'ai pas assez confiance en moi, que j'ai pas eu un environnement non plus familial ou qui aurait pu m'encourager à aller au bout de ce désir. Et voilà, depuis que je suis arrivée aux ateliers, je retrouve ce désir, je sens qu'il se réveille. À nouveau, j'ai envie d'écrire des petits textes comme ça, pour moi, des tout petites choses. Donc, y a un désir, mais il est encore très timide.
Là, c'est comme une naissance, parce que moi j'étais vraiment arrivée uniquement pour un peu me désacraliser avec l'écriture, le bien écrire. Et Virginie a tout de suite mis cet accent comme quoi on n'était pas à l'école. Alors à ce moment-là, comme ça m'a libérée sur le droit d'écrire, entre guillemets, un peu n'importe comment, comme je le sentais, en toute liberté. Et ça a fait naître l'hypothèse de pourquoi pas écrire quelque chose et d'en faire partager à plus de monde. Je me dis, donc c'est une naissance.
C'est que cette idée de partage de l'écriture, on se pose pas la question pour la musique. Quand quelqu'un fait de la musique, il sort sa guitare et puis vas-y que je te pousse la chansonnette. Et c'est quand même curieux, hein. Même s'il gratouille, même si c'est un vol de canard à chaque fois qu'il sort son instrument, n'empêche qu'on est là, bienveillant, l'oreille favorable, ça fait de la musique. Mais dès qu'il s'agit d'écriture, tout de suite ça se crispe. Alors, est-ce que c'est l'école qui est derrière, ou est-ce que c'est notre histoire particulière à nous, Français, avec l'Académie française, et puis les prix? Alors, vous allez me dire qu'il y a des prix en musique aussi, que ça fait pas la même chose. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce rapport particulier à l'écriture?
Intimidant, oui, on a l'impression que c'est réservé à une élite. Moi, j'écris depuis très longtemps. Quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de poésie. Après, quand j'étais adolescente aussi. Et j'avais même écrit sur un de mes cahiers qu'il fallait garder ce petit cahier parce qu'un jour, peut-être, je serais célèbre et que donc on pourrait le vendre une fortune. Et il se trouve que depuis, le petit cahier, il est parti aux oubliettes et c'est une histoire de place, en fait. Et donc ici, à l'atelier, eh ben déjà, je prends ma place. On est beaucoup de femmes à l'atelier. Bon, c'est pas pour rejeter les hommes, mais je pense que le fait qu'on soit des femmes, on a toutes des histoires un peu secouées, mouvementées, et ben on peut partager ça entre nous.
Et là, la question, elle se pose pas. C'est une évidence comme quoi, si c'est possible pour tout le monde, avec nos couleurs, nos différences, et réellement, ça résonne sur tout le monde. Chaque texte qui est écrit, il y a une résonance sur chacune de nous et de chacun, hein, parce que la présence de l'homme apporte une note justement singulière et particulière, et ça peut rééquilibrer le truc. Mais je m'étais jamais posé la question, et à partir du moment où...
Quand tu étais petite, Laurence, avec ce petit cahier, est-ce que tu avais l'idée d'un genre particulier? Tu dis poésie, est-ce que tu écrivais des histoires aussi? Est-ce que l'idée du livre à venir, de quelque chose dont tu étais porteuse, est-ce que c'était déjà là?
Quand j'étais au collège, j'écrivais des histoires. C'était parti parce que j'avais un prof de français qui m'avait beaucoup encouragée sur les rédactions, et donc je me suis mise à écrire des histoires. Et puis des années après dans la vie, j'étais plasticienne. Et en fait, quand j'étais plasticienne, je créais des petits tableaux à base de matériaux de récupération, et chaque petit tableau, j'appelais ça une boîte à histoire. Donc l'histoire avait vraiment son rôle dans ma vie. Enfin voilà. Et puis quelques années plus tard encore, une dizaine d'années plus tard, je suis devenue conteuse amateur. J'ai été conteuse amateur pendant 8 ans. Donc l'histoire, oui, l'histoire a... en fait, l'écriture, je la vois comme un lien justement entre la vraie vie et la mythologie, le conte.
Ah oui, un pont. Un pont entre la mythologie et la vie quotidienne. Et toi, Caroline, au début de l'atelier, tu étais plutôt du côté du tableau. On me disait ça souvent, que tu faisais des petits tableaux. Et puis, quelque chose s'est passé au fil de ce trimestre d'écriture. Il y a eu un moment d'expansion. Nous, on l'a senti, mais je ne sais pas si toi, tu l'as senti.
Non, je ne l'ai pas du tout senti. C'est grâce à vos retours que je me suis rendu compte que c'est comme si ma vie, je la voyais de manière fragmentée. Et donc, ça se ressentait dans mes écrits. Et à un moment donné, à vos retours, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire le lien entre tous ces tableaux, sinon pour jouer l'unité dans mon être. Et j'ai laissé cette graine germer en moi, y réfléchir, et aux ateliers qu'on suivit, je me suis dit, fais le lien. Et ça s'est ressenti puisque Virginie, tu as fini par me dire que...
Et donc, ce qui est clair, c'est que ce sont les retours du groupe, c'est l'écoute et le retour du groupe qui te fait avancer. C'est pas un savoir qui se baladerait ou dont je serais détentrice, qui infuse dans les têtes comme on fait dans les écoles. Il y a un maître, des élèves qui avalent la parole, etc. Là, c'est pas du tout de la même façon que ça se passe. C'est l'épreuve de la lecture qui produit des effets en retour sur celui, celle qui écrit.
D'ailleurs, ben oui, quand je lis mon texte et que j'entends rire, j'entends des réactions, à chaque fois je me dis « waouh, mince, jamais j'aurais imaginé que ce que j'écrivais pouvait faire naître chez l'autre ».
Ce qui est aussi très important, c'est vraiment d'entendre les autres lire leurs textes. Parce qu'à la fois, on se retrouve dans cette multiplicité de différences. Et on trouve dans les lectures et dans les approches des autres textes, mais des petits fragments de ce que nous aussi on est, quoi. Ça fait comme des petits morceaux de miroir, en fait.
Et ces petits morceaux de miroir assemblés finissent par vous désigner une sorte de voix d'écriture.
Oui, on pourrait presque dire ça, mais ça fait, même si ça fait un petit peu la trouille de dire voilà, moi je sens que depuis le début mon écriture change, enfin mon écriture se transforme, j'ai davantage confiance. Et un jour Virginie a dit un écrivain écrit tous les jours, et moi je me suis dit non mais ça c'est pas possible, mais je me suis dit je vais quand même écrire un peu plus qu'avant, c'est-à-dire je vais plus le prendre en dilettante maintenant, je vais m'imposer dans la semaine un ou deux créneaux, ne serait-ce que d'une heure, une heure et demie pour écrire en dehors de l'atelier.
Quel que soit l'art qu'on pratique, un musicien, il travaille tous les jours, enfin, et il travaille des heures et des heures et des heures. Et pour avoir eu un musicien à la maison et m'être farci la même phrase musicale pendant 15 jours, reprise exactement au même endroit et recommencée, sempiternellement recommencée, on voit bien que c'est pareil pour tous les arts.
Ce qui serait important pour moi de vous transmettre, c'est que la magie de l'atelier, c'est qu'on arrive chacun avec notre individualité, nos écrits qui sont extrêmement personnels. Et à la fin de l'atelier, c'est comme si on formait qu'un. Une fois que la lecture de tout ça a été faite, il y a un lien entre nous, alors qu'a priori, il pourrait ne pas y en avoir. Mais c'est assez magique à plusieurs.
C'est que ce un qui est très fort, c'est pas l'amitié ordinaire. C'est pas les groupes d'écriture qui se forment et qui sont dans le souvenir extrêmement soudés. Il s'est passé quelque chose de très très important au moment de la formation de ce 1. Ça ne devient pas des copines qui s'écrivent, qui échangent, etc., qui se retrouvent au bistrot. Non, c'est pas ça. C'est uniquement dans l'expérience d'écriture. C'est très étrange, cette unité qui se crée.
C'est quelque chose que personnellement, j'ai jamais connu auparavant. C'est parce que c'est une unité qui est dans l'inclusion de toutes les différences et dans l'inclusion de chaque être et de la profondeur et de la différence de chaque être. C'est comme des mains tendues, en fait. C'est-à-dire que ce groupe, c'est un, parce que mais c'est une multiplicité de mains qui se tendent et d'oreilles qui s'écoutent et de bouches qui...
C'est joli, j'aime beaucoup cette idée des mains qui se tendent, parce qu'en fait, chacun aide les autres à faire le chemin. C'est ce qui est beau. Et c'est une autre potentialité de l'enseignement, on peut dire, parce que il n'y a pas vraiment quelque chose qui s'enseigne. Moi, je ne sais pas grand-chose. À chaque fois que je fais un nouveau livre, je recommence à zéro, bien sûr. Alors, j'exagère un peu parce que j'ai un peu de bouteille après 30 ans, mais quand même, il y a une forme de d'anxiété à avoir à nouveau à affronter cet énorme temps de maturation et de distillation qui fabrique un roman, un livre, etc. C'est quelque chose qui demande un souffle et une alchimie tout à fait particulière. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être un alambic quand j'écris. Ça remue, je pompe partout, je recycle, j'y pense la nuit, j'y pense le jour. Enfin, je suis un alambic. Et il y a une certaine anxiété à affronter cette situation d'alambic, parce qu'on ne sait jamais si au bout, on n'aura pas de l'alcool à brûler.
Merci. Super. Bon, alors moi, j'aimerais mieux un verre de champagne. Mais effectivement, il y a une hyper-anxiété. Il y a une hyper-anxiété de ne pas savoir ce qui va sortir et donc de toucher aussi à des émotions de nos vies, des passages de nos vies qui ont pu beaucoup nous blesser et de ne pas savoir forcément comment gérer ce qui va arriver. Bon, voilà, pour moi, c'est un peu difficile de redémarrer. C'est pour ça que j'y vais sur la pointe des pieds. Mais j'ai confiance.
Oui, on en parlait avant l'émission. Ce qui se dit et ce qui s'écrit, c'est pas du tout pareil. Et en fait, si l'écriture a une place dans nos vies, c'est parce que ça peut pas se dire. Et forcément, non seulement ça peut pas se dire, mais on sait même pas ce qui va se dire. C'est le stylo qui le déclenche. Et c'est ça qui fait peur quand même. Toi, Caroline, t'as éprouvé ça à plusieurs reprises et à l'impression dans l'atelier.
Alors, je pourrais faire le parallèle avec le trac. Quand j'ai fait du théâtre, ben il y a la peur du trou, du texte appris, et que juste avant de rentrer en scène, c'est le blanc absolu et ce qu'on appelle le trac. Ben dans l'écriture, s'il y avait un parallèle qui était possible, c'était l'histoire de la page blanche où j'ai rien à dire. Mais Virginie, tu nous amènes le déclencheur de nos écritures, la préface, on va dire, comment tu amènes un sujet. Et comme il n'y a pas d'obligation et il y a ce sentiment d'une totale liberté, le trac, il peut durer une seconde, deux secondes, et de suite tu apportes tous les éléments qu'il faut pour que la main ne soit pas figée et que l'écriture se fasse aisément.
Oui, alors je le précise aux auditeurs, en fait c'est des propositions. Ce que j'apporte, c'est pas comme un sujet de rédac, c'est des propositions et qui sont ouvertes et qui sont même parfois un peu contradictoires. On peut aller là, mais on peut aller en sens inverse. Tout est possible. L'idée, c'est de faire fleurir tous ces possibles quand on anime la séance d'écriture, permettre à chacun, même si deux personnes ont des trajectoires diamétralement opposées, les deux vont pouvoir s'y retrouver. C'est ça le petit secret de l'atelier d'écriture.
Oui, et puis je pense aussi qu'il y a l'émulsion du groupe. C'est-à-dire, il peut effectivement des fois avoir des jours où un thème inspire plus qu'un autre, mais le fait de voir les autres écrire, il y a une émulsion qui se fait, il y a une montée de... À voir les autres écrire, eh ben, ça va permettre de lancer sa propre écriture plus librement.
Il y a un constat que je fais souvent, mais c'est surtout l'été. Enfin, dans notre atelier du jeudi aussi, ça se passe. C'est que tout le monde commence à écrire à peu près en même temps et tout le monde finit à peu près en même temps. Et j'entendais l'autre jour sur France Culture que les scientifiques ont découvert que les cerveaux communiquaient. Même si on ne se parle pas, on a les cerveaux qui communiquent. C'est une expérience qui m'avait beaucoup frappée quand je faisais écrire en prison. Les filles avaient leurs règles en même temps. Elles étaient toutes indisposées, comme on disait à l'époque, indisposées en même temps, la même semaine, crac. Et c'est quand même curieux. C'est un phénomène extrêmement banal en prison. C'est-à-dire que les horloges intimes s'accordent. Et je crois que la dynamique du groupe d'écriture repose en grande partie sur ces transmissions secrètes entre nous, que je trouve, moi, absolument éblouissantes. Je trouve ça me scie d'admiration qu'on puisse comme ça être à ce point sensitif et en dehors de ce qu'on appelle classiquement la rationalité. Il y a autre chose qui nous relie, et ça m'enchante.
Oui, et c'est une très très grande richesse de le vivre comme ça, de façon régulière, c'est-à-dire qu'on se revoit toutes les semaines. On a chacun nos libertés, nos vies, nos voilà. Et quand on se retrouve, c'est la joie, quoi. C'est, on arrive là dans l'atelier, la maison est chaude, c'est douillet, on est accueilli, on se sent bien, on se sent. Il y a une complicité qui va au-delà des mots, en fait, entre nous dans le groupe. Et simplement les regards, une petite parole, un geste. Et voilà, on est là, le groupe, il est comme ça.
Vous oseriez, je sais que c'est un saut important à faire, mais lire un de vos textes, un texte écrit en atelier. Alors, c'est toujours impressionnant parce qu'il y a, c'est comme un grand pas à faire. On a lu dans le cercle de l'atelier, qui est un cercle intime, et puis brusquement, là, on s'adresse à des auditeurs et des auditrices qu'on ne connaît absolument pas. Donc, je sais que c'est émouvant, mais est-ce que vous allez franchir ce pas? Je crois oui.
Les premières lueurs sont arrivées. Un brin d'arc-en-ciel. Waouh! Que c'est bon de contempler, de s'évader. Je m'y installe trop longtemps. Allez, Orphée, bouge-toi. Ton corps se réveille. À chaque cycle de remontée, c'est la magie qui s'opère. Je suis en lien avec tout, vraiment tout. Je ressens tout dans mon corps, les frissons plus tard. Le bon, le mauvais. Je me transforme en éponge. Je vois tout, je sais tout. Tout le monde m'enterre? Non. Alors, je retourne dans ma cabane en bois, au fond du jardin. Maman, tu m'énerves. Le cerveau qui joue à la boussole, la terre qui se met à bouger. Hop là, rééquilibrage, sinon chute. Ah ah ah, les frissons, c'est sublime. Du bout de mes cheveux à la pointe des orteils. C'est comme une jouissance de la vie, des êtres de l'univers. Ainsi, à ce stade-là, je peux donner de l'amour. En attention, mesdames et messieurs, de l'amour inconditionnel en présentiel et à distance. À distance, j'utilise la lune. C'est par elle que je passe, la lune. Même cachée par les nuages, je parviens à la voir. Et oui, suivez-moi. Laissez-vous aller sentir, mon ami la lune. Elle est mon canal pour aimer à distance. Merci à elle, merci à vous. Je suis arrivée à un nouveau cycle.
À toi, Laurence.
Exil, exil, exil. Combien de fois, combien de jours, y a-t-il dans ma vie un temps où je ne suis pas en exil? Un temps où je fais corps, où je fais lien avec ceux qui m'entourent, avec celles et ceux qui m'entourent. L'enfant, l'enfance, est-elle la première saison de l'exil? Je me revois sous la table des repas familiaux, recroquevillée au milieu de la terre, de la poussière et des mégots. Loin du monde qui m'entourait, loin de cette famille qui ne m'appartenait pas. Isolée. Seul, perdu, sans information, sans boussole, avec ma robe de princesse. Pauvre petite princesse égarée, pauvre jeune fille bouclée sous les maux des angines et des phlegmons, pauvre jeune femme illusionnée par les revues de presse. Je le jouais car c'était un jeu futile, un jeu sérieux donc. N'étais-je plus en exil ? Puis vint le temps remarquable de la pauvre mère de famille. Épuisée, usée, aussi minée à 30 ans qu'on peut l'être à 80, où est-ce que j'étais donc pour fuir à ce point mon destin,
comme le torche-cul affaissé que j'étais devenue. Avec amour, avec passion, mes enfants, mes chéris, mes petits, comme je vous ai, oui, comme je vous ai aimé, oui, comme je vous ai haï en ces temps d'exil maternel. Car s'il est un temps où l'on est loin de tout, où l'on est à mille lieues du monde et de tout le monde, où l'on est dans l'enfouissement de soi, c'est bien celui-là. Dans cette illusion perfide, dictée et assénée de la maternité, j'étais dans une tombe et ma famille, chaque jour, jetait sur le cercueil sa poignée de terre pour m'ensevelir, m'anéantir encore et encore. Je descendais, je m'enfonçais, je m'enlisais avec une aisance perfide, m'exilant ainsi définitivement d'un avenir que je ne parvenais plus à percevoir depuis longtemps déjà. Je m'enivrais presque de cet exil impudique où, enfin, j'étais bien moi. Inaudible, inadmissible, inadapté, inadaptable. Cavalière et monture d'un monstre qui s'enfonçait dans les ténèbres. Mais un jour, je traverserai le fleuve. Terrible rempart entre la princesse égarée de l'enfance et la femme engloutie de la maternité. Viendra la femme inachevée. Petite marchande d'allumettes, j'en ai brûlé des allumettes pour trouver le chemin. Parfois même, l'éclat d'une lampe frontale a éclairé un ou plusieurs des os perdus de mes congénères en chemin. Pauvre femme stupide, naïve, pauvre folle que tu es. Comme je me sens en ordre avec ces adjectifs, ces compléments d'objets qui m'éloignent de tout et me ramènent à moi.
Merci, merci pour ce texte très fort sur la maternité. Merci pour ces deux textes magnifiques. Eh bien, et merci pour votre témoignage sur l'atelier d'écriture. J'espère que vous aurez convaincu tous ceux qui nous écoutent de tenter l'aventure à leur tour, d'aller mettre des mots sur l'expérience humaine. C'est quand même une des plus belles aventures qui puissent nous arriver. Je vous remercie, Laurence. Merci, Caroline. C'était Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez les deuxièmes samedis et deuxièmes dimanches du mois à 10h sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. I am drifting for the years.